16h-18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et nous partons tout à l'heure après le flash de 17h en Australie, de l'autre côté de la planète. Mais pour le moment, nous sommes dans un endroit où on aimerait forcément un jour ou l'autre passer son week-end ou ses vacances. C'est le Poitou. Et Nathalie est allée enquêter, creuser les livres d'histoire du Poitou pour nous trouver des personnages féminins assez... comment dire, il y en a un qui est glaçant, d'autres saisissants. En tout cas, c'est...
Oui, il y a une sorte de trilogie pour tous les goûts. Il y a la criminelle, il y a la sainte, et puis il y a la fée, bien sûr. Bon, là, c'est pas du tout la fée. Hein.
Ça fait peur.
C'est pas du tout la fée. Alors là, c'est plutôt une histoire a priori ordinaire, celle d'une femme mariée de 40 ans qui s'appelle Marie Bénard, qui vit tranquillement dans une commune du Poitou appelée Loudun, dans le département de la Vienne. Et puis tout d'un coup, bah, y a la mort suspecte de Léon Bénard, son second mari, en octobre 1947, qui va déclencher la plus longue enquête judiciaire jamais connue. À Loudun, la rumeur enfle et se répand comme une traînée de poudre. La bonne dame, comme on l'appelle, aurait-elle assaisonné la soupe de son mari avec un soupçon d'arsenic ?
Eh oui.
Parce que sa mère est morte dans des circonstances troubles peu de temps auparavant. Il y a d'autres accusations d'empoisonnement qui arrivent. Petit à petit, son premier mari, également une tante, son propre père, des amis. 12 personnes auraient succombé et bien sûr, elle aurait hérité.
Et alors, est-ce qu'elle est coupable ou pas ?
En tout cas, elle est incarcérée et puis, quasiment immédiatement, et puis il y a un procès ultra médiatisé en 1949. Et là, c'est un personnage improbable qui apparaît drapé dans de longs voiles noirs avec des lunettes démesurées, le visage sombre, l'attitude austère. Mais Marie Bénard ne flanche pas, les juges n'arrivent pas à la coincer. Malgré des analyses multiples sur les corps des membres de sa famille et 3 procès, elle est acquittée en décembre 1961 et elle échappe à la peine capitale. Ironie du sort, vous allez voir, elle meurt presque centenaire à Loudun le jour de la Saint-Valentin en léguant son corps à la science.
Ah bon, ça, je savais pas ça. Oui, elle a légué son corps
absolument
à la science.
Absolument. Donc c'est vraiment la femme qui incarne à la fois les fantasmes populaires, qui est soit le symbole d'une créature diabolique ou bien une victime magnifique. Et on sait aujourd'hui tout de même que le cimetière de Loudun, entretenu avec du sulfate de plomb pour la végétation, aurait pu contribuer au taux excessif de poison retrouvé lors des autopsies sur les membres de sa famille.
Les autopsies des victimes ?
Absolument. On n'a aucune preuve, mais on sait que dans ce cimetière, il y a de l'arsenic.
Donc ce serait une explication ?
Ça pourrait.
Bah dis donc, quelle histoire. Alors on a eu la meurtrière et maintenant on a la fée.
Oui. La fée Mélusine. Alors, sa légende est intimement liée à un château, celui de Cherveux à Lusignan, un haut lieu de l'histoire des guerres de religion. La fée Mélusine l'aurait fait apparaître en une nuit, dit-on. Je vous raconte cette légende, Philippe. Raymondin, qui est le comte du Poitou, vient de tuer accidentellement son oncle d'un coup d'épieu alors que tous deux chassaient le sanglier. Oui.
Il a pas l'air en
vous avez reconnu la musique des visiteurs. C'est presque une histoire digne du début des visiteurs. Vous savez, quand Godefroy le Hardy tue, en croyant tuer un ours, son futur beau-père. Ben, c'est presque la même chose. Alors ce pauvre Raymondin, il est désespéré. Il va errer dans la forêt de Coulombier, près de Lusignan. Il aperçoit 3 dames magnifiques sur un promontoire rocheux. L'une d'elles est Mélusine. Il tombe amoureux, il l'épouse. Elle garde ses pouvoirs magiques sans lui dire. D'un coup de baguette magique, elle fait surgir ce château, mais aussi différentes forteresses, tout en cachant son secret. Comme elle a assassiné son père, elle est condamnée à prendre l'apparence d'une femme serpent. Personne ne doit la voir sous cette forme. Mais un beau jour, Raymondin, qui est quand même pas idiot, il est fou de jalousie, il se demande ce qui se passe, il fend d'un coup d'épée la porte de la chambre de sa femme et il découvre, éberlué, Mélusine en train de se baigner et de peigner des longs cheveux d'or. Évidemment, elle a un corps de sirène en dessous du buste. Et là, elle s'envole par la fenêtre, elle se transforme en serpent géant, elle fait 3 fois le tour de la forteresse et de la ville en hurlant avant de s'évanouir dans les airs. Moralité, méfiez-vous si votre moitié insiste pour faire chambre à part.
D'accord, donc il vaut mieux épouser une sainte.
Oui, enfin, si elle y consent, ça c'est pas vraiment le cas de Sainte Radegonde. Là, nous sommes...
Ça, c'est du grand spectacle, notre chronique aujourd'hui.
C'est musical. Nous sommes au 6e siècle. Radegonde, c'est une princesse germanique. Son père est battu au combat par Clotaire, le roi de Soissons. Il l'a fait élever dans la religion chrétienne, ce Clotaire. Elle fait partie du butin, en fait. Mais comme elle est très très belle, eh bien, il décide de l'épouser. Elle tente de s'enfuir. Il la rattrape et elle, tout ce qui l'intéresse, c'est la prière et l'austérité. Tintin pour Clotaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se venge, il fait assassiner le frère de Radegonde. Et là, la coupe est pleine, elle quitte ce personnage odieux et brutal qui est son mari. Et elle réussit à être consacrée religieuse par l'évêque Médard à Noyon. Et puis elle fonde un monastère de religieuses, le monastère Sainte-Croix à Poitiers, mais refuse de le diriger parce qu'elle veut vivre vraiment comme les plus humbles. Donc elle accomplit toutes les tâches les plus rudes, elle distribue l'aumône, elle lave les pauvres, elle les soigne, elle les guérit, y compris les lépreux, puis elle accomplit un paquet de miracles. Par exemple, elle va lutter contre les animaux diaboliques comme ce dragon ailé surnommé Grand Goule, qui dévore les religieuses dans les souterrains des monastères. Elle terrasse le dragon après une prière fervente, le monstre tombe foudroyé. Elle meurt en 587, elle est canonisée bien sûr par la suite. Bon, vous l'aurez compris, avec ces trois personnages, les Poitevines ont du tempérament. On peut dire ça comme ça.
Oui, c'est quelque chose. Merci Nathalie.
Mais je vous en prie.
Dans un tout petit instant, les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier pour aller visiter le Poitou.